Alors, Laurence Côté-Fournier, en relisant mon texte, j'ai réalisé que je mets beaucoup de mots entre guillemets. Alors, désolée si je fais toujours des signes dans l'espace. Ce ne sera pas enregistré, malheureusement. Donc, aussi, avant de me lancer dans cette présentation, je tiens à préciser que même si je parlerai ici de questions liées à la poésie française contemporaine, je suis assez loin d'être une spécialiste du domaine. Si je vais tenter de ne pas trop m'éloigner des limites de la pertinence, c'est d'abord en tant que lectrice d'une poésie déjà un peu plus ancienne, celle de Francis Ponge, qui, pour aussi mort que soit son auteur, n'en continue pas moins de demeurer une référence vivante pour nombre de poètes dont je vais parler ici. Donc, des décennies après les déclarations de Ponge sur la nécessité de désaffluber la poésie, de sortir du manège et de quitter le ronron poétique, ces écrivains s'inspirent toujours de sa démarche pour définir ce que peut être la poésie à l'heure actuelle, dans ce monde supposé post-avant-garde, où les expérimentations des années 70 ont fait place à ce qu'on a qualifié de retour du lyrisme, donc ce retour vers une conception plus classique du poème, était supposé pallier à la désaffection qui minait un domaine poétique qu'on a dit être devenu trop aride et trop hermétique après des années de formalisme. Pour cette présentation, je me concentrerai sur un livre qui, par les écrivains qu'il rassemble et les questions qu'il pose, m'a paru apte à dresser le portrait d'une part du domaine poétique, celle associée naguère à sa frange plus expérimentale. Les éditions La Fabrique, qui n'ont jamais publié de poésie, ont fait paraître il y a quelques mois un collectif consacré à cette pratique intitulé « Toi aussi, tu as des armes, poésie et politique », réunissant, je vais citer la quatrième de couverture, les écrivains qui ont en commun de ne pas trop aimer qu'on les traite de poètes. Cette boutade est certainement représentative de la posture de nombre d'écrivains contemporains qui cherchent à se distancier d'une certaine image d'Épinal de la poésie avec un grand P, dans ce qu'elle a de plus fleur bleue et de plus conservateur. Elle installe néanmoins d'emblée un flou autour des frontières du domaine poétique, flou que les auteurs ne cesseront pas d'investir. Il est aussi précisé que ce qui rassemble l'écriture de ceux et celles qui ont accepté de participer au projet est d'être hantés par la poétique. Poétique qu'on retrouve, je cite encore, dans un effort pour renouveler la construction, l'agencement et les enjeux du livre, et de ce qui, au-delà même de l'objet livre, poursuit l'analyse critique de nos mondes. Donc, c'est assez ambitieux. Et pourtant, il apparaît vite que cette fonction critique ne va pas de soi. Les contributions du recueil sont en grande partie articulées autour de la notion d'action. Comment, à la lumière des combats poétiques plus ou moins fructueux qu'on a cherché à mener tout au long du 20e siècle, peut-on encore relancer l'idée d'une parole capable de se mesurer à la novlangue? Dans ces textes, c'est le plus souvent la valeur de cette action restreinte qu'est l'art poétique, dans un contexte de marginalisation profonde de ce genre qui est en jeu. Quelles sont donc ces armes qu'on invite le lecteur à prendre, à partir de cette poésie revendiquée dans le sous-titre, mais tenue à distance par des auteurs? Avant de plonger dans les textes du recueil, je ferai un détour par un autre essai qu'on aurait pu imaginer inclus dans « Toi aussi, tu as des armes », tant le ton et les problématiques soulevées sont semblables. Il s'agit de « À quoi bon encore des poètes » de Christian Prigent, paru en 1996 chez POL, alors que la guerre, c'est vraiment un terme exagéré, entre formaliste et lyrique avait cours. La question polémique posée par le titre de l'essai évoque un épuisement, une forme de lassitude, autour d'un mode d'écriture qui serait devenu anachronique et inutile. Le portrait incendiaire que Prigent dresse de ce milieu ne dément pas cette impression. Alors, je le cite. « En France, on aime beaucoup la poésie qu'on ne lit pas. Comme on n'en lit presque pas, l'amour est immense. Les princes de la République citent parfois un beau vers sentencieux. La mort des grands aèdes émeut les margots des journaux. Les poètes, les vivants, eux, forme une corporation affectueuse, jalouse et pétaradante. Cette corporation, je ne m'en excepte pas, souffre d'un double complexe. Un de supériorité, la roborative vanité d'être affairée à polir la perle des pensées au cœur de monde mercantile et histrionesque, et un d'infériorité, le sombre sentiment d'une déchéance, d'une clochardisation intellectuelle, d'un tournis en rond dans l'échange quasi inaudible des revues à 50 lecteurs, des opuscules voués à la nécrophagie bibliophilique et des lectures accablantes d'ennui devant quelques amis venus à charge de revanche. Les deux complexes s'alternent. Mais souvent, ils s'annulent réciproquement dans la tenue cadavéreuse d'un « à quoi bon » généralisé. Il ne faut toutefois pas croire, après cette description cinglante, que Prigent reste sur cet « à quoi bon » pour constater amèrement la vacuité de cette pratique d'écriture. C'est, à vrai dire, tout le contraire. Ce vide et cette absence sont, pour Prigent, le propre même de toute poésie. On se cite encore. Cette propension à disparaître de et dans l'usage social, cette façon d'incarner le disparu, de formaliser ce qui disparaît, ce qui fait trou dans l'homogénéité verbalisée de la communauté, c'est la poésie. Si la poésie peut encore et toujours se montrer nécessaire, c'est en incarnant l'insignifiance du présent, c'est en travaillant l'obscur, la difficulté, en dessinant un espace d'indétermination du sens. Pour Prigent, la constitution de cet espace est intrinsèquement liée à un travail politique. Au final, la principale justification de la poésie, ce qui peut donner sens à la pratique considérée moribonde du poète, c'est ce travail de sape qu'il peut effectuer de sa tanière, cette mise en retrait volontaire dans les zones oubliées ou délaissées. Cette position qui lie indissociablement le devenir de la poésie à sa fonction politique est certainement radicale, mais pas très éloignée de celle de nombreux auteurs du recueil « Toi aussi, tu as des armes », recueil qui compte notamment Jean-Christophe Bailly, Jean-Marie Glaise, Christophe Hanna, Nathalie Quintane, pour n'en nommer que quelques-uns. On trouve néanmoins dans le collectif quelque chose comme une vacillation, une hésitation entre le ton affirmatif du titre et la réelle possibilité de penser la poésie et la politique. La poésie définie d'abord et avant tout comme forme de résistance qui peut échapper aux limites de la narration du réalisme, comme travail de décrassage de la langue, comme situation de langage, paraît faire consensus. Les effets virtuoses ou pathétiques destinés à mettre en valeur le poète et ses talents sont condamnés. Le poème doit, pour s'opposer à l'universel reportage, se concentrer sur la rumeur tout à côté. Pour citer le texte de Jean-Christophe Bailly, c'est justement cette rumeur, ce fond d'émissions humaines continues, dont on aimerait peut-être, dût-elle justement s'y séquencer en reportage, que le poème se souvienne. Là où les réponses varient davantage, c'est dans l'articulation de ce travail du langage politique, dans ce que cela implique de croyance en la possibilité réelle d'agir et de méfiance nécessaire envers les pièges qui guettent celui qui entremêle action littéraire et action politique, pour reprendre le titre du texte de Christophe Hanna. Prends une gorgée. Celui-ci fait, par exemple, le récit de manifestations devant l'établissement où il enseigne, manifestations auxquelles participent certains de ses étudiants. Ceux-ci sont alertes, enflammés par les événements, présents, même si leur discours est peu clair. Hanna se rappelle pourtant leur comportement en classe de français, les histoires inoffensives et drôlatiques de poursuites entre guépards et éléphants qu'ils pondaient durant le cours, plutôt que d'utiliser cet espace pour façonner un discours critique, comme il les invitait à le faire. De toute façon, comme l'un d'eux lui dit acerbement, la politique, en littérature, ce n'est jamais qu'un fonds de commerce. L'étiquette de fonds de commerce marquera Hanna. Plus loin, Jacques-Henri Michaud, pour donner titre à son texte, introduit un peu de scepticisme en rajoutant un point d'interrogation où toi aussi tu as des armes, et n'hésite pas non plus à dénoncer les limites de l'écrivain bourgeois, dont la capacité à l'autocritique sont minées par le confort et la complaisance. D'un ton moins caustique et davantage teinté d'inquiétude, Bailly évoque le « spectre de la bonne intention », plane sur la poésie qui tente de prendre part au combat politique, je le cite, « avec tout ce qu'il implique de faux-semblants ou de lyrisme vague, de pathos et de tendance au slogan. » Ainsi, déclare Bailly, « le poème qui laisse entrer la rumeur de l'histoire ne peut jamais le faire gratuitement et sans risque. » Tout cela, bien sûr, sans prendre en compte la question fondamentale, de poste récurrent dans ces textes, « pour qui pouvons-nous prétendre écrire ?» Ces précautions prises, ces risques dévoilés, que reste-t-il pour valider l'optimisme du titre? Rien de très guerrier peut-être, mais un art de l'obscurité et de l'autoréflexion qui va dans le sens de l'essai de Prigent de 96 avec un peu plus de doute et d'autocritique. Ainsi, Christophe Hanna avance que désormais le pouvoir ne peut plus être conçu comme, je le cite encore, un immense corps avec des points faibles qu'on peut attaquer avec les instruments fournis par la littérature. Il récuse d'anciennes images post-romantiques de la littérature construite comme une bombe ou encore comme un virus pouvant contaminer la société par la dépravation ou le mauvais exemple à la loterie Hamon. Pour Hanna, l'écriture est alors instrumentalisée, perçue en fonction de son efficacité et sa capacité à nuire à la cible choisie. Jouant de cette instrumentalité en détournant, Hanna propose lui-même un modèle calqué sur le monde de la technique, construit à partir des termes de valence, de gamme, d'extension, dans lequel sont multipliées les interactions possibles et les usages à faire de la poésie en dehors des lieux prévus. Au-delà de ce jeu avec le vocabulaire, Anna exprime en tentant de définir un espace logique pour une littérature qui pourrait être politiquement secourable, ce sont ses termes, le désir d'objets verbaux qui seraient eux-mêmes aptes à en modifier d'autres ou à changer les usages courants, des actes locaux faits à petite échelle, capables de transformer le réel sous d'autres modes que celui de l'attaque. Jean-Marie Glaise met quant à lui de l'avant le concept d'opacité critique, une forme, encore une fois, c'est son terme, d'insurrection quotidienne, se tenant assez loin de l'attaque politique directe. Pour Glaise, désormais, je cite, « la résistance à ce que Bernard Noël a justement nommé la castration mentale ne saurait relever de la confrontation frontale. Elle suppose de notre part conscience et grande vigilance formelle. » Il nuance quelque peu des positions prises antérieurement sous l'influence des écrivains qu'il admire, notamment ceux qui pratiquaient la violangue façon Guyotta ou Novarina. Si un livre peut être un acte, comme il le souhaite, c'est en œuvrant dans ce qui parle à voix intensément basse, au présent, dans la négation de la politique s'il le faut, et en s'en tenant à un réalisme radical qui évite toute complaisance. Bon, si ce n'est pas le temps d'évoquer tous les textes, je crois néanmoins que ceux cités reflètent le ton général du recueil, qui, malgré son titre, ne contient pas de déclaration le rapprochant des excès révolutionnaires à façon surréaliste, ni même d'un esprit de manifeste. Dans la lutte inquiète et caustique que mènent les auteurs, subsiste toujours une volonté politique, transmise par le biais d'une poésie décloisonnée, comme en témoigne le nom des écrivains qui servent de modèle aux participants du collectif, ceux de Leslie Kaplan, de Kafka ou de la bande de Tikkun, je ne sais pas comment le prononcer, et dont l'aspect autocritique est prépondérant. La poésie demeure alors, dans sa précarité, d'abord et avant tout une forme de langage survivant dans une opacité que, pour reprendre l'image de Didi Huberman, la lumière des féroces projecteurs dévorant toute forme ne saurait atteindre.